Alors pour cette avant-dernière séquence, comme nous avions Daniel Peraya sous la main, finalement on lui a dit qu'on allait l'utiliser jusqu'au bout, pour animer cette dernière table ronde de perspectives. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir Jean-François Fiorina, donc directeur général adjoint de Grenoble École de Management, Annie Gézégou, professeur des universités à Lille 1, et Bruno Delièvre, professeur à l'université de Mons et vice-doyen de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation.
On a beaucoup parlé, effectivement, parce que c'était la thématique principale, de diversification des parcours, de personnalisation des parcours de formation. Je trouve qu'on en a beaucoup parlé, mais du point de vue des enseignants, du point de vue des institutions, de ce que ça impliquait pour la réorganisation de nos institutions. Peut-être qu'effectivement, ça implique un certain nombre de choses pour les étudiants, et on pourrait peut-être voir aussi comment... où situer finalement la place des étudiants dans cette espèce d'injonction à la diversification, etc. Alors pour ça, je vais d'abord poser cette première question à Annie, dont c'est un peu la spécialité, c'est effectivement le point de vue des étudiants dans les processus de formation et d'apprentissage. Alors qu'est-ce que tu en penses, toi, particulièrement de cette place des étudiants face à cette diversification? Est-ce qu'ils ont besoin de compétences particulières? Est-ce qu'ils sont prêts pour? Est-ce que... Voilà. C'est ma première question. Yeah.
Merci.
Attends, au niveau organisationnel, il y a peut-être juste une chose. On fera une ou deux pauses en cours de l'heure pour donner de la place à certaines interactions avec la salle. Voilà. Mais maintenant, je te repasse la parole.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, depuis pas mal d'années, je travaille plus particulièrement avec mon équipe sur la question de l'autonomisation des apprenants, adultes, jeunes adultes, au sein des environnements institués de formation, dont les systèmes institués universitaires. Et donc là, moi, je vous propose de rendre compte un peu de l'état de ma réflexion, mais bien sûr en croisant avec tout ce que j'ai pu entendre aujourd'hui et ce qui m'a été rapporté hier, puisque je ne pouvais pas être avec vous hier. Alors je dirais, pour un préambule, donc je vais rentrer par l'apprenant, comme on dit, c'est-à-dire que je vais vous demander, à penser, ce qu'on dit souvent, une boutade, c'est de penser à l'envers. C'est-à-dire penser du point de vue du sujet en formation et non pas du formateur. Donc je vais vous inviter à penser à l'envers du point de vue du sujet, mais en même temps, selon une perspective un peu macro et donc socio-économique, pour situer un petit peu les enjeux éducatifs liés à cet appel au développement de l'autonomie dans tous les champs de la société et pas uniquement dans le champ de l'enseignement supérieur. Comme vous le savez, nous sommes entrés dans une société que l'on qualifie de hyper-moderne, qui est constamment secouée par des évolutions technologiques fortes, permanentes, des évolutions socio-économiques fortes, des évolutions politiques fortes. Et ce que l'on peut observer, c'est deux grandes tendances majeures que je vous soumets à la réflexion, deux grandes tendances majeures, mais et qui n'échappent pas, bien sûr, au système socio-économique et éducatif qu'est l'enseignement supérieur. Alors la première tendance peut se résumer par un appel implicite et pas forcément formulé comme tel à l'autonomie de l'étudiant, mais aussi à l'autonomie du travailleur, à l'autonomie des enseignants-chercheurs, à l'autonomie de tous les acteurs du système productif, on va dire, qu'ils soient adultes, jeunes adultes. Donc, on leur demande, notamment à nos étudiants, d'être actifs, créatifs, flexibles, adaptables, capables de diriger par eux-mêmes leur formation et leurs apprentissages, de se mettre dans une dynamique d'auto-formation, d'auto-évaluation, tout ce qui a été notamment dit ce matin, de savoir diriger par eux-mêmes leur vie personnelle, professionnelle. Bon, voilà. Donc, cet appel que certains psychologues appelle même une injonction, et même une injonction paradoxale, ça on le verra plus tard, se généralise à tous les secteurs d'activité, travail, loisirs, famille, et à tous les secteurs socio-économiques, public, privé, entreprise, collectivité locale, et notamment l'enseignement supérieur. Donc, première tendance, un appel généralisé à l'autonomie, sans que ce soit forcément explicitement formulé. La deuxième tendance, qui est lié à la première, c'est de faire reposer sur l'individu et donc sur les étudiants, notamment, le poids de la mise en œuvre de son autonomisation. S'autonomiser, c'est développer son autonomie, hein, ce qui suppose de très fortes compétences à l'autodirection, notamment. Alors, cette tendance-là, hein, de faire reposer à l'individu le poids du développement de son autonomie, nie le plus souvent les différences individuelles, hein, qu'elles soient sociales, cognitives, métacognitives, affectives, socio-affectives. Hein, et il y a là donc une injonction uniformisée de développement de l'autonomie sans que dans les faits, concrètement, sur le terrain, on prenne en compte les dimensions personnelles des étudiants et des travailleurs et de tous les acteurs éducatif. Et puis ensuite, ça c'est du point de vue du sujet, mais cette tendance aussi met complètement de côté tous les facteurs environnementaux, dont éducatifs, pour ce qui nous intéresse, technico-pédagogiques, socio-pédagogiques, psycho-pédagogiques, qui peuvent freiner, entraver, voire favoriser cette autonomie ou cette autodirection. Alors moi j'ai une question que je vous soumets, puisqu'on est dans une table ronde de perspectives. Hein. Cette autonomie, est-ce que le système d'enseignement supérieur à l'heure actuelle estime que c'est une qualité requise pour réussir dans ce système-là? Ou est-ce que c'est une visée? Est-ce que c'est un objectif éducatif commun, partagé, sur lequel les acteurs de l'enseignement supérieur ont une cohésion et une solidarité pour cela? Donc là, c'est deux modèles. Au-delà des mots, c'est quand même deux modèles de société qui se dessinent devant nous ou qui se commencent ou qui commencent déjà à bien s'installer. Alors, par rapport à ces deux tendances, moi, j'observe deux paradoxes dans l'enseignement supérieur, mais deux paradoxes très forts que je vous soumets à la discussion quant à cet appel à l'autonomie. Alors, en même temps qu'on fait appel à l'autonomie de nos étudiants, on leur demande de s'ajuster, de se conformer à des modèles éducatifs pédagogiques qui, somme toute, sont encore très conventionnels, très traditionnels, et donc anciens, de l'ancien monde, hein, mais qui permettent de répondre à une logique de formation de masse, qui est bien, finalement, la vocation de l'enseignement supérieur. Mais en même temps, l'université présente de très très fortes espaces de liberté, de très très une très très grande ouverture à l'international, une ouverture qui dont certains étudiants savent se servir pour choisir leur parcours et bon, leur parcours, leurs apprentissages, leurs options. Et donc, elle crée là un espace de champ possible d'expression de l'autonomie. Mais ce que nous observons dans les travaux, moi et mes collègues, mais à l'échelle internationale, mes collègues de mon laboratoire, mais aussi à l'échelle internationale, c'est que ce système-là, il profite aux personnes les plus autodirigées, donc déjà pas mal autonomes. Hein. On leur envoie la responsabilité de leur propre formation et de leurs apprentissages, et puis pourquoi pas, on leur envoie la responsabilité de leur propre décrochage. Et donc, moi, je dirais qu'on assiste là à un mécanisme d'assujettissement à certaines valeurs, conception élitiste, de sélection et de mise entre concurrence de nos étudiants. Et ce mécanisme-là entraînerait un système de reproduction sociale d'autant plus violent que les médiations humaines sont réduites. Et c'est là que je rejoins tout ce qui s'est passé pendant les deux jours. Hein, j'ai trouvé absolument formidable justement ces témoignages, ces récits de pratiques, ces formalisations qui finalement disent ben oui, les médiations humaines sont importantes. Justement, peut-être que c'était ce que vous vouliez dire, ou peut-être que vous ne soupçonniez pas, ou peut-être que vous avez envie d'affirmer avec moi, c'est qu'il s'agit quand même de pouvoir monter des ingénieries de l'individualisation, de la personnalisation, développer l'art de l'accompagnement, former nos enseignants, nos formateurs à cela, pour soutenir, favoriser le développement de l'autonomie. Et pour moi, cette perspective-là, qui est peut-être très idéaliste, je pense qu'elle est faisable, ce qui demande beaucoup d'énergie d'hommes et de femmes dans nos institutions, dans des contextes qui sont aussi très fermés et très procéduriers, est souvent dominée par une logique gestionnaire qui nous demande souvent de nous assujettir d'ailleurs, et donc de permettre de pouvoir relancer, je dirais, ou créer ce que nous avons pendant des années, à mon avis, perdu, c'est cette logique d'éducation permanente, cette logique d'émancipation sociale de masse et d'égalité réelle et effective des chances. En fait, ma perspective que je vous soumets là, c'est que La personnalisation, l'individualisation de la formation, oui, ce sont des vecteurs d'égalité des chances. Mais bien sûr, il faut énormément d'énergie et des moyens financiers et les appuis de nos institutions. Parce que je reviens à la question du modèle, du modèle de société par rapport à la question de l'autonomie. Est-ce que nous voulons une société où les plus nantis, je dirais au plan de l'eau, je ne parle pas financièrement, quoique c'est assez corrélé, les plus nantis par rapport à la capacité à pouvoir développer leur autonomie, ce qui suppose plein de prérequis et plein de stratégies. Vous pourrez me poser des questions là-dessus si vous le souhaitez, et que l'on crée les conditions pour cela. Hein, voilà, donc deux perspectives. Franchement, moi je suis très optimiste par rapport à ce que j'ai pu observer, discuter dans les tables rondes. Je pense que le collectif que nous représentons, j'ai l'impression, je poserai l'hypothèse en bonne chercheuse, que nous nous orientons plutôt vers une aide au développement de l'autonomie des apprenants.
Merci. Donc voilà, entre deux choses, un message quand même finalement assez optimiste et assez souriant. Je vous propose qu'on garde, pour la partie des questions, cette interrogation sur, qui est une vraie interrogation, est-ce qu'autonomie c'est effectivement un prérequis ou bien ce serait un résultat et un but à atteindre. Alors, puisqu'on était dans cette idée-là, on a parlé d'étudiants de formation initiale, on a parlé d'étudiants en formation, enfin, ou d'apprenants, ou de professionnels en formation tout au long de la vie. C'est peut-être l'occasion de s'interroger sur ce modèle-là, sur ce type de formation, qui est peut-être aussi une formation dans laquelle on trouve des gens qui sont peut-être, qui sont supposés être effectivement plus autonomes, déjà plus autodirigés. Et du coup, on peut se poser la question de quelles sont les vraies conditions d'une formation tout au long de la vie réussie. Est-ce que c'est simplement un aspect de formation? Quelle est la part de l'activité individuelle que l'individu peut mener au cours de ce processus? Voilà, alors j'interrogerai Bruno sur cette question-là.
Très bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Daniel. Merci de m'avoir convié à cette table ronde. Alors, je vais essayer d'aborder trois points, peut-être seulement deux en fonction du temps, mais je voudrais commencer par le premier, c'est-à-dire revenir un peu sur ce concept d'innovation. Et pour revenir sur ce concept d'innovation, vous verrez en quoi je veux venir ensuite sur l'idée de formation tout au long de la vie. Je voudrais vous raconter une histoire de singe, en fait. Et donc, c'est une biologiste qui a fait des recherches qui s'appelle Jane Goodall. Elle a fait des recherches sur la manière dont les singes étaient à un moment donné ou non innovants. Et donc elle fait des observations et se rend compte un jour que des singes, une tribu de singes qui vit près d'un endroit où il y a de l'eau, se nourrissent de pommes de terre habituellement, et une des guenons, voyant l'eau, se dit « Tiens, est-ce que je ne tremperai pas ma pomme de terre dans l'eau pour que ce soit plus facile à manger, plus agréable ?» Ce qu'elle fait. Faisant cela, elle communique aux autres son invention et petit à petit, les autres guenons, les autres singes adoptent la même attitude. Voilà une manière donc d'envisager le fait qu'on a une forme d'innovation et que cette innovation, elle se répand. L'observation de cette biologiste a mis en évidence qu'après, avec de l'eau de mer, les singes ont tremper les pommes de terre dans de l'eau de mer et les pommes de terre sont devenues salées, puis elles les ont cuites, etc., etc., etc. Et donc, c'était toujours la même innovatrice qui incitait les autres à adopter quelque chose qu'elle avait décidé. Et donc, là, il y a une première réflexion à voir, c'est le fait que, d'abord, on est créatif. Ça veut dire qu'on a l'idée. Mais on est tout seul à avoir l'idée. Ensuite, on met en œuvre cette idée. Et donc, là, on est inventif, ça veut dire qu'on trouve le moyen de mettre en œuvre l'idée qu'on a. Et dans un troisième temps, et c'est là qu'on est innovant, c'est que cette idée, cette invention, elle doit se répandre, elle doit se diffuser, elle doit être partagée. Sinon, l'idée, elle reste votre idée. Donc, si vous voulez être innovant, à un moment donné, il faut partager. Et c'est là qu'on en arrive à ce qu'on peut appeler un paradoxe de l'innovation, c'est que l'innovateur, il est seul, pour commencer, mais que s'il veut que son innovation porte ses fruits, à un moment donné, quelque part, elle doit être standardisée, elle doit être partagée, elle doit être diffusée. Et donc, est-ce que nous, en tant qu'enseignants, à un moment donné, l'innovation que l'on porte, l'idée que l'on a, Est-ce qu'on la partage? Est-ce qu'on la diffuse? Et donc, on va rejoindre la question des réseaux qu'on a largement évoquée tout à l'heure. Est-ce que nous sommes dans des réseaux? Est-ce que nous utilisons les réseaux? Les médias sociaux, les réseaux sociaux numériques. Enfin, qu'est-ce qu'on utilise comme réseau pour communiquer sur ce que l'on fait, pour que la formation, ce que nous avons appris, puisse servir de formation à d'autres? Et donc, on est là dans une forme de formation continue, puisque on va soi-même poursuivre son propre cheminement, mais on va le partager avec les autres, ce qui va permettre à d'autres d'en bénéficier, et donc de monter à une échelle évidemment beaucoup plus élevée. Et donc, mon deuxième point par rapport à ça, c'est qu'il faut rester éveillé. Ça veut dire que, à mon avis, de manière essentielle, aujourd'hui, une grande partie de la formation continue, c'est est-ce que nous avons des outils de veille? Est-ce que nous avons des modes de veille? Est-ce que nous nous tenons au courant d'une manière actuelle de tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos domaines de spécialité? Quels sont les outils que nous utilisons pour cela? Quels sont les réseaux que nous utilisons pour cela? Et on en revient à cette notion de partage. Et ce que nous découvrons, partageons-le. Est-ce que nous le partageons avec les autres? Et puis, je vais en terminer sur cette première partie avec ma troisième idée. Je ne dirais pas que les enseignants doivent innover. Je ne pense pas qu'il faille une injonction à l'innovation. Sinon, on va se retrouver dans des postures où, en fait, on va faire croire qu'on fait de l'innovation, mais en fait, on fait comme on a fait il y a bien souvent et on essaye de le mettre un peu au goût du jour, ce qui ne suffit pas habituellement. À ce titre-là, je vous recommande les ouvrages d'André Tricot dernièrement sur les mythes de les innovations pédagogiques, sur les mythes de l'usage des technologies efficaces dans l'enseignement. Pourtant, c'est mon fonds de commerce, donc je ne prêche pas contre ma chapelle, mais ce que je veux vous dire là, c'est que c'est la recherche qui nous met en évidence aussi la manière dont on peut valider la valeur des innovations, dont on peut les mettre en évidence. Et donc, l'enseignant ne doit peut-être pas être un... On ne doit pas l'enjoindre quelque part à innover. Par contre, je crois qu'on doit l'enjoindre à continuer à adopter sa posture d'enseignement-chercheur. Et donc, il est enseignant et il est chercheur. Ça veut dire qu'il met en place, pour augmenter la qualité de son enseignement, des dispositifs, mais il va les valider, il va les réfléchir avec d'autres, il va les confronter, donc de nouveau, il va les partager. Il va diffuser les résultats et la manière dont il a pu en observer un certain nombre de conséquences. Et c'est là qu'on augmente la qualité. Et là, on est dans une démarche qualité. Et donc, c'est ça la posture de l'enseignant-chercheur innovant. C'est que pour augmenter la qualité, eh bien, il va devoir adopter cet ensemble d'attitudes qui, je crois, sont favorables et sont des bonnes conditions pour que l'innovation se répande et ne reste pas dans le fait de l'un ou l'autre ou dans la tête de tous ceux qui ont des bonnes idées. Voilà.
Est-ce que sur ces deux premières... Pardon. Est-ce que sur ces deux premières interventions, il y a une ou deux questions qui demanderaient une ou deux réponses, mais dans un cas comme dans l'autre, il faudrait que ce soit très bref. Je ne vois absolument rien. Mais bon, mais si, bon, mais ou bien, donc, enfin, les questions restent ouvertes. Hein. On va continuer, et puis effectivement, si jamais. Vous aurez la parole un peu plus tard. Alors, Jean-François, par rapport à cette démarche qualité, qu'est-ce qui, globalement, dans l'idée de la personnalisation, de la transformation de nos pratiques et de nos institutions, quels sont les points les plus importants et qui pourraient aller dans le sens de cette démarche qualité, quoi?
Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité. Alors moi je vais avoir l'approche directeur d'établissement et en disant par rapport à tout ça, comment ça se met en place et quelles en sont les conséquences, j'ai identifié différents points. Le premier c'est tout ce qui va toucher à l'organisation et à la logistique. Et avec un changement de fonctionnement et d'approche, pour l'instant nous avons plus l'habitude de gérer des cohortes et de temps en temps des groupes à l'intérieur de ces cohortes, et avec toute cette personnalisation et ces parcours différenciés, on va devoir gérer sur trois niveaux, une partie cohorte, une partie groupe et une partie individu, et donc il va falloir qu'on pilote sur ces trois éléments, avec, et si je prends l'expérience de l'établissement que je dirige, une vision qui est d'organiser tout autour de l'étudiant. On a des parcours différenciés, on en a un grand nombre, et on s'aperçoit que ça fonctionne parce qu'on a mis l'étudiant au cœur du dispositif et qu'on parle beaucoup entre nous, donc la discussion a été évoquée, on parle beaucoup également avec d'autres institutions, puisque ce sont des parcours qui font appel à d'autres cultures et d'autres établissements, mais encore une fois, voilà, c'est une organisation différente beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de discussions, vous l'évoquiez également, beaucoup d'humains, et de se dire ce qui est intéressant, il faut réfléchir donc à partir de l'étudiant et d'autres dimensions d'organisation. Deuxième conséquence, et ça va faire apparaître de nouveaux métiers dans nos établissements, des métiers de curriculum designer pour aider les étudiants à définir ces profils, un métier de curriculum designer pour vérifier la cohérence des parcours pédagogiques, pour éviter que les étudiants partent un petit peu dans tous les sens et qu'on vérifie bien qu'ils ont donc les fondamentaux, qu'une personnalisation et que derrière il y a une logique, également un aspect d'accès de qualification pour ne pas envoyer, pardonnez-moi l'expression, des étudiants au casse-pipe sur des parcours dans lesquels ils ne pourraient pas y arriver. Il y a une troisième dimension qui est ce que je qualifie de SRM, Student Relationship Management, d'information auprès des étudiants, de qualification, de suivi. Et puis, je crois qu'également, il va y avoir deux autres aspects qui vont apparaître. Le premier, c'est une grosse dimension recherche. Non pas de la recherche en management, mais de recherche en éducation et de se dire, on veut innover. Oui, on innove beaucoup. J'ai bien aimé votre approche, votre phrase en disant il ne doit pas y avoir d'injonction à l'innovation. Il y a des améliorations, des innovations permanentes. Mais je crois qu'on doit aller beaucoup plus loin et se dire, oui, on met en place des nouvelles pédagogies, on met en place de nouvelles approches. Il faut vraiment les évaluer et dit d'une autre manière, est-ce qu'un cours de marketing est plus efficace avec une classe inversée que dans un cours magistral ? Encore une fois, c'est des nouveaux métiers, il va falloir le faire parce qu'on ne pourra pas se disperser, on ne pourra pas aller dans tous les domaines. Puis, autre élément aussi, et c'est quelque chose que je plaide depuis très très longtemps, je pense que ça va accélérer la collaboration entre nos établissements. Alors, quand je dis entre nos établissements, c'est entre les différentes ethnies, groupes, universités, grandes écoles, écoles d'ingénieurs ou d'autres types d'écoles, parce que cette innovation, elle coûte cher. Cette innovation, elle prend du temps et il y a également toute une réflexion qu'on a commencé à mener à la CGE de se dire comment valoriser cette innovation et de se dire il faudra mutualiser et dans cette mutualisation on pourra partager des pratiques, on pourra partager des outils, on pourra partager des ressources et puis ensuite chacun les personnalisera, qui pour la formation initiale, qui pour la formation continue. Puis on va dire, dernière conséquence importante aussi, je crois qu'il y a tout un rôle à faire auprès de nos agences ou instances d'accréditation. Alors, il y en a beaucoup dans tous les domaines, mais de dire comment derrière peut-on valoriser l'innovation pédagogique, comment peut-on valoriser ça, peut-être également auprès des classeurs. Je suis arrivé un petit peu en avance, j'ai écouté une vidéo où quelqu'un disait j'espère que dans les années à venir, on aura des étudiants qui pourront choisir leur établissement en disant je vais dans cet établissement parce qu'il y a une innovation pédagogique. Et donc ça suppose de notre part un gros travail d'information, de communication et de lobbying pour qu'il y ait cette prise en charge.
Merci. Alors, on a beaucoup parlé durant cette journée et demie des nouveaux métiers, des nouvelles spécialités, de la transformation du métier d'enseignant, de sa posture. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cet aspect-là particulièrement ? Quel type de nouveaux métiers ? Comment les intégrer ? Comment former d'ailleurs ces gens à ces nouveaux métiers ? Comment constituer les équipes pédagogiques ? Est-ce que Bruno, tu pourrais sur ce point-là intervenir ?
Alors, nouveau métier, je crois qu'on en est tous persuadés, mais il n'empêche, est-ce qu'on imagine jusqu'où on veut ou peut aller et où on en est ? Bon. Nokia, Kodak, ça vous dit quelque chose ? En gros, le virage du numérique a fait qu'il n'existe plus, voire pratiquement plus. Alors, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est dans notre monde à nous, est-ce que les domaines dans lesquels nous exerçons vont nous permettre de continuer à exister en intégrant ces technologies, entre autres numériques, je vais les prendre comme exemple, mais il y en a d'autres aussi. Par exemple, il y a des choses par rapport auxquelles on va évidemment être très d'accord. Dans le domaine de la santé, si on vous dit que demain vous allez être mieux opéré parce que le chirurgien se fait assister par un robot et que les gestes seront plus précis, vous n'y verrez pas d'inconvénient. Par contre, si on imagine, comme le font les transhumanistes, qu'on puisse aller jusqu'à remplacer presque toutes les parties de votre corps et qu'à un moment donné, peut-être, on sera tous immortels parce qu'on pourra remplacer tout, sans doute que ça pose des questions et ça pose des problèmes sur... comment demain envisageons-nous ces réalités-là ? les voitures autonomes, on est tous d'accord pour dire que si les voitures sont autonomes et qu'elles réduisent drastiquement le nombre d'accidents et donc de morts sur les routes, ça nous convient. Par contre, est-ce qu'on est tous prêts à se faire conduire par des véhicules qui vont, en fait, vont prendre des décisions à notre place et faire disparaître tous les chauffeurs de taxi, faire disparaître tous les chauffeurs de bus? Dans 10 ans, il n'y aura plus de chauffeurs de taxi, il n'y aura plus de chauffeurs de bus. Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là? Qu'est-ce que ça pose comme question par rapport à nos activités d'enseignants et des futurs, enfin, des étudiants et des futurs professionnels que nous formons? Est-ce que ces perspectives-là, on est prêt à les envisager? Est-ce qu'on est prêt à y réfléchir? Qu'est-ce que ça pose comme question en termes éthiques? Qu'est-ce que ça pose comme question en termes de vers où les menons-nous? Est-ce qu'on est disposé à réfléchir avec eux à tous ces métiers qui impliquent des compétences, qui sont des compétences nouvelles? Et vous voyez à foison sur Internet les 10 compétences à développer pour 2015, pour 2020, enfin bref, vous trouvez ça un peu partout. Mais il n'empêche que ces compétences-là, qui sont de l'ordre de comment aujourd'hui on collabore mieux et plus avec ou sans des outils numériques, comment on est créatif, comment on intègre tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, etc. Donc, est-ce que tout ça, et tout à l'heure, lors de la première table ronde de ce matin, il y avait cette idée de est-ce qu'il n'y a pas une part de ce que nous faisons qui peut-être est inutile et qu'on devrait remplacer par des choses plus utiles qui vont préfigurer les métiers de demain que pour une grande part nous ne connaissons pas, mais qu'il faut quand même anticiper, dont il faut connaître les enjeux de ce qu'il y a là autour de nous et de ce qui influence ces perspectives de futurs métiers?
Alors, plus sur cette perspective qui est une ouverture au fond à la formation et aux compétences à laquelle on forme nos apprenants et nos métiers dans lesquels ils vont entrer, et sur cette évolution-là, est-ce que concrètement, je veux dire, pour nous, dans notre travail au quotidien, je me souviens avoir dit un jour dans un colloque de formation d'instituteurs qu'on avait comme ça vu notre posture progressivement changer. On était d'abord on était bon dans notre discipline, et puis on a dû être bon dans l'enseignement, et puis on a dû devenir bon dans les technologies éducatives, et puis on nous a dit mais il faut plus faire de la recherche sur les technologies éducatives, et puis on nous a dit mais il faut aussi faire de la recherche en sciences d'éducation. C'est un modèle d'évolution, et puis on répond mais on a tous nos limites, c'est pas notre métier, on peut pas tout faire. Et du coup, comment on pourrait envisager concrètement dans nos institutions cette répartition des nouvelles compétences professionnelles, comment les gérer, comment guider cette évolution? Jean-François.
Cette question, comment il...
Oui, je sais bien, mais on n'a pas comment, beaucoup de temps.
C'est vrai que nous avons de plus en plus, dans un parcours de formation, il y a de plus en plus d'éléments à donner aux étudiants, entre les connaissances, les fondamentaux, les compétences, l'expérience, l'international, le projet professionnel et autres. Donc je crois qu'il y aura de plus en plus différents, une segmentation du corps professoral entre des purs spécialistes de recherche, des pédagogues, des intervenants professionnels, des consultants et autres. Et donc notre mission va être d'organiser et avec un énorme rôle de formation derrière, et de dire le cours de demain ou le parcours de demain va devenir un travail d'équipe. Jusqu'à présent, il est plutôt un travail de discipline, mais il y aura donc de plus en plus des équipes pluridisciplinaires qui vont travailler sous l'égide d'un chef de projet. La notion pédagogique est importante, hein, vous l'avez évoqué en disant dans les postures. Je crois que un des grands aspects importants pour moi de cette école de futur et tout ce qui se passe, c'est le grand retour de la pédagogie et de se dire on a plein de choses à notre disposition, mais c'est comment transmettre à l'étudiant, comment le valoriser, comment vérifier qu'il a bien appris, etc. Et donc, ça sera du travail d'équipe avec des équipes pluridisciplinaires en termes académiques, mais derrière, des supports. Alors, tout à l'heure, j'évoquais leur curriculum designer pour aider, mais on aura peut-être des spécialistes de systèmes d'information dans la relation et dans la communication que l'on doit mettre en place, des spécialistes de logistique, parce que cette école du futur et cette personnalisation, elle va entraîner également une réflexion sur de nouveaux espaces pédagogiques. On aura besoin également peut-être de de profs ou d'intervenants qui vont, qui vont assurer des thèmes sur un point particulier ou sur un type de compétence. Donc tout ça pour résumer, c'est-à-dire de plus en plus du travail de groupe, un chef de projet, différents types d'intervenants, et donc c'est là on voit bien qu'il y a une formation à faire à la fois dans ces aspects, sur du management, sur de la gestion d'équipe, sur du management de projets innovants, et puis une notion support à l'étudiant qui sera particulièrement important parce que nos cohortes étant de plus en plus importants, on pourra plus se permettre de partir, donc comment s'enfiler, et les réalisations devront être possibles. Et donc, j'en reviens à cet aspect de formation. Peut-être qu'il y aura une réflexion à avoir également dans la formation, dans les formations doctorales, et en entraînant une dimension pédagogique beaucoup plus importante. Et puis, j'en reviens également à cet aspect de mutualisation et de se dire bah, peut-être que nous aurons des spécialistes que nous partagerons entre établissements parce qu'ils nous aideront dans un domaine particulier.
Donc, au fond, on revient quand même à, il y a une idée qui est une idée assez importante qui se dessine quand même, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'innovation sans partage, sans réseautage et sans collaboration.
J'allais dire, c'est de plus en plus complexe. Hein, là également, ce que nous devons donner aux étudiants est de plus en plus, est de plus en plus important dans des logiques où il y a de moins en moins d'heures de cours. Mais ce que nous devons donner, encore une fois, il est très important, c'est des connaissances, c'est des compétences, c'est du savoir-être, c'est de l'expérience, et c'est de pouvoir organiser tout ça. Et je pense que la grande transformation, c'est-à-dire on gère des équipes, on doit travailler en équipe, et la notion de support est particulièrement importante, la notion d'information est également importante, la notion de suivi vis-à-vis des étudiants est également importante.
Merci. Annie, par rapport à ce qui était dit, comment réagirais-tu ? Et en plus, par rapport à ton domaine propre.
En fait. Oui, on peut dire plein de choses, hein, c'est sûr. Bon, moi, je vais revenir à la question initiale, qui était quels sont les métiers de demain ? C'était bien ça, la question ? Non, où on a, je ne sais
non,
plus où on
en est. Au fond, quels sont les métiers qui, progressivement, oui, sur lesquels on doit s'appuyer pour arriver à...
Moi, je suis toujours prudente sur les perspectives prospectives et prescriptives. Parce que Yaka, Faucon, bon. Moi, je trouve que, bon, je vais revenir quand même à cette idée de société hyper moderne. Ça veut dire quoi ? Parce que je ne peux pas m'empêcher de resituer les choses au niveau macro pour mieux penser le micro, c'est-à-dire l'étudiant. Ça veut dire quoi ? Mondialisation de l'économie, flexibilité accrue dans tous les domaines, recherche de flexibilité, plus bien sûr, un peu le culte de la performance. Bon, bref. Par rapport à ça, ok, comment les forces vives de ce pays, je dirais en termes du système de formation initiale, continue, universitaire, FTLV et tout ça, peuvent agir pour, faire en sorte que la casse soit minimum par rapport aux personnes que nous formons et donc qu'ils puissent trouver aussi leur place dans leur société et s'épanouir et si possible être heureux. Eh bien là, moi, je dirais, parce que c'est une question qui vient d'arriver là, je disais que finalement, depuis dans les années 90, même 80, les métiers de la médiation, ils existent. Alors pourquoi les métiers de la médiation humaine, on le voit dans le secteur social, les métiers de la médiation éducative, hein, dans l'accompagnement des étudiants, dans l'accompagnement, dans toutes les pratiques d'individualisation de la formation, que ça aille du projet, en passant par le parcours, situation d'apprentissage, validation des acquis, qui sont les quatre niveaux d'individualisation, par rapport à la personnalisation dans la relation éducative que nous pouvons avoir, nous, dans l'enseignement supérieur, mais c'est valable aussi dans les centres de formation continue, avec les stagiaires, avec les étudiants, ce sont des choses qui se font au quotidien. C'est du travail souterrain, c'est du travail qui est prescrit, mais en fait, il est complètement souterrain et informel, mais drôlement efficace. Donc moi, je me disais, mais nous avons des compétences dans ce pays, nous avons une histoire de l'accompagnement. Hein. Dans tous les secteurs d'activité, je parle du système de formation initiale et continue, je ne parle pas des entreprises. Mais pour que nous améliorons nos pratiques et nos professionnalisations dans ces métiers de la médiation qui peuvent être bien sûr relationnels, qui peuvent être purement pédagogique, psychopédagogique, technico-pédagogique, une médiation entre le savoir institué, le savoir savant, ou le savoir professionnel, il y a la pratique et l'apprenant, comment justement le rendre accessible au plus grand monde, comment faire en sorte que tout le monde réussisse. Eh bien, je peux pas m'empêcher d'être optimiste. Bon, c'est peut-être ma nature, mais je suis comme ça. C'est-à-dire qu'on a un potentiel énorme. Donc, faisons-le fructifier, consolidons-le, stabilisons-le, donnons-nous, j'en fais partie, les moyens financiers, humains, pour pouvoir consolider cet aspect-là, déjà. C'est quand même une condition nécessaire et suffisante et indispensable. Après, par rapport à ces métiers de la médiation, mon versant pessimiste, c'est qu'on est quand même dans une société de l'urgence, de l'immédiateté, du flux tendu, du juste à temps, de gérer les temporalités des autres. Et tous ces métiers de la médiation, notamment pédagogique, technico-pédagogique, socio-pédagogique, psychopédagogique, et des médiations même dans le secteur de la santé, même dans le secteur social, demandent du temps. Parce que l'accompagnement suppose de la part des personnes qu'on accompagne une phase de réflexivité. Et la réflexivité sur son parcours, sur ses acquis, sur ses auto-apprentissages, ça demande du temps. Et je trouve qu'il y a encore là un paradoxe. Il y a encore un paradoxe qui rejoint mon exposé d'avant. Les métiers de la médiation, d'une part, les métiers de la médiation existent. Faisons en sorte qu'ils fructifient, qu'il s'améliore, mais partons de l'existant et pas d'une logique prescriptive, illusoire et idéale, le trois quarts du temps, avec une visée toujours un peu désirante des acteurs politiques, de nos gouvernances, quelles qu'elles soient. Et puis, deuxièmement, comment faire face à cette société où, finalement, on n'a plus le temps de réfléchir et d'aider encore les autres à réfléchir sur leur devenir. Voilà, donc c'est un peu une réaction à chaud. Je n'avais pas du tout préparé ni pensé vous dire ça.
D'accord, mais c'est comme le jeu, il y a toujours une part d'incertitude, quoi. Alors, on reviendra sur cette question qui reste ouverte. Des interventions précédentes, je vais retenir deux aspects. Un, il y a Bruno, tu as beaucoup parlé effectivement des aspects technologiques et des aspects techniques. On sait que dans les dispositifs qu'on met en place, il y a une grande part, ou en tout cas, il y a une part importante de technologie. Toi, Annie, d'une certaine façon, tu reviens sur une chose importante qui est la médiation humaine. Et du coup, je sais que c'est un thème, Bruno, qui est important pour toi. C'est quel est celui de la complémentarité, par exemple, dans le cadre de l'innovation, entre ce qui revient à l'innovation humaine et ce qui revient à l'innovation technologique, et comment vivre et organiser cette complémentarité.
D'accord. Alors, aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, on a deux types d'intelligence, si on veut, qui coexistent, l'intelligence des êtres humains, et puis on a cette intelligence des machines, des technologies. Alors, de nouveau, je vais prendre un exemple que j'ai lu tout récemment. Todai, c'est un système d'intelligence artificielle qui, à l'examen d'entrée à l'université de Tokyo, qui est une des plus sélectes du Japon, a fait mieux que 80% des étudiants en devant rédiger un texte de 600 mots sur un sujet qui est l'ascension et la chute du commerce maritime en Asie du Sud-Est au XVIIe siècle. Bon, vous voyez, il faut le lire déjà soi-même pour déjà comprendre le titre. Alors. Elle a fait mieux que 80% des étudiants qui ont réussi, enfin qui ont passé par ce test. Et la personne qui a conçu cette intelligence artificielle s'est dit, mais en fait, tout le monde peut écrire un texte et ne rien comprendre à son texte. Et donc, la spécificité de l'intelligence humaine, c'est d'être capable, justement, d'apporter des nuances à ce texte, d'arriver à expliquer ce texte autrement, de pouvoir discuter de ce texte, ce que la machine, aujourd'hui, ne peut pas faire. Et donc, la question de ces intelligences qui coexistent et qui sont là, c'est comment vont-elles être complémentaires? Et la question que nous devons nous poser, c'est comment allons-nous nous former nos étudiants pour qu'ils soient complémentaires à ces dispositifs numériques qui existent. Aujourd'hui, vous voulez détecter une tumeur, il faut faire des calculs en nombre invraisemblable. Et donc, le médecin, il va aller évidemment beaucoup moins vite, ou n'importe quel radiologue va faire ça beaucoup moins vite que la machine. Mais par contre, comme l'a dit Annie, dans l'accompagnement du malade, dans le suivi du malade, dans la manière dont on va lui annoncer ce qu'il va devoir faire, la manière dont il va devoir se prendre en charge, là va intervenir la part prédominante de l'humain. De la même manière, en termes, on va dire, d'éducation, peut-être que demain, on a parlé de personnalisation, on va avoir des systèmes qui vont nous permettre de faire des diagnostics des forces et des faiblesses de nos étudiants pour leur proposer des programmes personnalisés. Mais qui va les prendre en charge? Qui va prendre le temps de s'en occuper et de pouvoir travailler avec eux? Ce sont les êtres humains. Donc, soit on va former nos étudiants à être des exécutants de systèmes plus performants qu'eux, ça veut dire qu'on va leur demander de faire des clics quelque part et ça ne va rien apporter à personne, si ce n'est aux machines. Soit on va leur demander d'être complémentaires à ce que la machine fait très bien. Et c'est là qu'on doit être innovant aussi, dans nos manières d'envisager des programmes. C'est en fonction des outils qui sont mis à notre disposition, de cette intelligence qui coexiste avec nos compétences qui sont très spécifiques, qui sont nos compétences humaines, qu'est-ce que nous allons apporter, qu'est-ce que nous allons développer de façon prioritaire?
Bon, mais... Alors,
Juste un complément, c'est vrai, c'est enfin, la technologie est un moyen, non pas une fin en soi, et on en revient à cette notion également de travail d'équipe et de formation. C'est vrai qu'il y a des outils qui sont performants, mais il faut former, et encore une fois, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps, et surtout, ne tombons pas dans le gadget.
Oui, on retiendra. Hein. Le temps passe, on va bientôt arriver vers la fin de cette table ronde, d'autant qu'on va, je vais essayer de... On va garder 10 minutes, un quart d'heure pour que vous puissiez interagir et poser vos questions. J'avais une dernière question qui est un peu une question de clôture. Je trouvais qu'il y a une question intéressante et importante qui est à la fois liée aux enjeux de l'évaluation, de la certification, de la diplomation par rapport à cette diversification, à cette personnalisation des parcours. L'enjeu, c'est au fond d'arriver à une cohérence pédagogique d'un programme individualisé par rapport à quelque chose qui est relativement standardisé, qui demeure un diplôme et une certification. Alors, Jean-François, quelle proposition, quelle solution, quelle réflexion, quelle argumentation autour de cette thématique-là?
Si je prends le cas de GEM, encore une fois, je crois qu'il faut, ce qui est important, c'est qu'il y ait des fondamentaux et que ces fondamentaux soient partagés par tout le monde. Et ensuite, ça permet la personnalisation. Et il est important d'avoir une évaluation à la fin qui soit une évaluation identique, qui ne prenne pas en compte forcément la spécificité du parcours. Je m'explique, je crois beaucoup, moi, pour notre programme Grande École, à un examen de sortie par rapport aux objectifs donc, du programme où on a défini des compétences clés et un certain nombre de caractéristiques et de se dire, bah, par rapport au parcours suivi, quel qu'il ait été à Grenoble, chez des partenaires à l'étranger, dans des langues ou dans des pédagogies différentes, à la fin, les modalités d'évaluation et les objectifs d'évaluation sont les mêmes, ce qui fait que bah, c'est ce qui fait la force du diplôme, ce qui fait cette cohérence et de dire, bah, tout le monde a le même niveau de diplôme, on ne peut pas dire, il y en a un qui a trouvé le moyen de passer par un parcours parce que, soi-disant, ou le buzz aurait dit que c'était plus facile d'avoir de bonnes notes. Mais vraiment, je crois, je vous dis, au départ des fondamentaux, ça c'est obligatoire, indispensable, pour pouvoir personnaliser, alors dans la dimension management, parce qu'il y a besoin de généralistes, parce qu'on ne sait pas ce que va être la vie pour nos étudiants, donc ça se trouve, ils occuperont forcément d'autres fonctions, ils ont besoin de comprendre les différentes cultures de l'entreprise. Ensuite, des parcours personnalisés, avec des accès, avec de la qualification, je crois que c'est assez important de dire, ce n'est pas au choix en permanence, et il y a une éducation et une pédagogie à faire sur qu'est-ce qu'un choix de parcours, qu'est-ce que ça entraîne, et à la fin, une évaluation finale, identique pour les mêmes, qui permet de se dire, bah, c'est ce qui garantit l'égalité et l'équité de tous ces étudiants.
Annie, tu voulais ajouter quelque chose?
C'est un peu une évidence encore, enfin, pour moi, du moins. C'est que bon, notre pays, mais c'est pas que notre pays, a comme une espèce de peur de l'évaluation. Alors, c'est vrai qu'en formation initiale et continue, on évalue, surtout en formation continue, les évaluations de satisfaction, hein, ça c'est connu, après l'évaluation des acquis, puis après flop, quoi. On s'arrête au mieux là. Moi, je pense que l'évaluation des effets des dispositifs de formation sur l'employabilité, sur leur pertinence par rapport au métier, par rapport au marché de l'emploi, arriver à pouvoir développer la réflexion un petit peu plus étayée que des bases statistiques et tout ça. Bien sûr, il y a vraiment des personnes qui sont très, 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 très au point et des études qui sortent régulièrement. Et là, moi, je dirais que la recherche, mais dans tout ce qu'on vient de dire, la recherche, notamment en sciences de l'éducation, a une carte à jouer de se dire que l'on peut aussi évaluer les effets sur les apprenants eux-mêmes, mais les effets attendus en termes de résultats, plus ou moins prescrits par le système, c'est louable et presque normal, mais aussi les effets inattendus sur les personnes en formation.
Bon, mais alors, je vais essayer de garder quelques idées pour moi, un peu en termes de clôture, et puis je vous laisserai la parole. Au fond, il y a une des premières choses qui est apparue et qui est revenue quand même souvent, c'est que si c'est vrai que l'éducation est globalement une réponse à une demande sociale, la vraie question, c'est quelle société on veut et qu'est-ce qu'on veut faire de notre futur, de nos générations, de nos enfants, de nos petits-enfants, c'est dans quel monde veut-on qu'ils vivent ? Enfin, je pense que ça, c'est une question qui était sous-jacente tout le temps et c'est une question qui s'est reposée et je pense que c'est une bonne question. Après, il y a la question de l'autonomisation. Est-ce que c'est un prérequis? Est-ce que c'est une visée? Est-ce que c'est un objectif? Comment on la développe? Il y a une remarque qui est assez persistante aussi, c'est le refus d'une injonction pour l'injonction. En fait, l'innovation ne se fait pas à la demande. Soyez innovants, soyez créatifs, c'est un peu chaque fois quand même des injonctions paradoxales. Il y a une chose qui est effectivement très importante qu'on n'a pas cessé de répéter, c'est qu'il faut communiquer, il faut rendre visible ce qu'on fait, il faut partager, il faut informer. Il n'y a pas d'innovation sans partage social. Et donc, il faut dépasser ce stade assez jouissif de la création, de l'inventivité, de dire, bon, j'ai fait un truc chouette, je suis content, c'est vachement bien, mais il faut aller au-delà de ça. Après, il y a l'importance du travail en équipe, et il y a cette espèce d'équilibre important entre ce qui sont les facteurs finalement humains et de l'accompagnement et de la personne par rapport à la facilité et l'instrumentation de certaines tâches par les machines, mais qui ne doivent pas être finalement devenir l'objectif en soi. Bon, ce sont des conclusions un peu générales. Je vous propose de réagir maintenant. On a certainement 10 minutes pour pouvoir réagir tranquillement. Je crois que c'est Philippe qui disait hier que la première question était toujours difficile, alors on pouvait passer directement à la seconde. À la deuxième, oui. Oui, c'est vrai, la grammaire, je préfère dire la deuxième que la seconde. Voilà, s'il y a quelqu'un qui se lance. Je suis désolé, mais je vois vraiment pas grand-chose.
Oui, je suis à votre droite, derrière la caméra, donc invisible.
Voilà, je vous vois, ça va, merci.
Anne Vanet, vice-présidente SI et numérique de Paris Hydro. Moi, j'ai trouvé vos interventions fantastiques parce que vous mettez le doigt là où je pense qu'il faut vraiment aller. Maintenant, c'est extrêmement disruptif et on voit que là où on doit aller, c'est extrêmement éloigné de là où on est. Et donc, comment on fait? Est-ce qu'il faut une grosse intervention de l'État avec des injonctions à faire? Est-ce qu'il faut de l'évaluation, veux-tu en voilà? Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent? Mais on voit bien qu'il va falloir une organisation avec un saut dans l'espace pour arriver en un temps inférieur à 40 ans, là où vous dites qu'il serait bon d'aller, où je trouve que c'est effectivement exactement là où il faudrait aller.
C'était plutôt un commentaire qu'une question, donc je ne sais pas si ça s'appelle vraiment une réponse. Alors je vous propose une seconde question.
Je vais quand même répondre.
Enfin, ah oui, d'accord. Je n'avais pas vu.
Je crois qu'il faut à la fois, c'est vrai, peut-être des grandes injonctions d'État, mais je suis également très optimiste et je crois que ça doit partir de la base. Et dans la personnalisation des parcours, encore une fois, si je prends mon exemple, j'ai été plus que surpris quand je suis allé négocier des accords de double cursus avec des licences, et on va dire dans des disciplines très, très éloignées du management à tout point de vue, y compris idéologique. Et j'ai été plus que surpris de l'accueil qui m'a été réservé et de la facilité, de la rapidité avec laquelle on a mis les choses en place. Et donc, je crois qu'au niveau des individus, il y a plein de bonnes volontés, plein de bonnes choses. C'est à mettre en place. Et je crois que plus il y aura d'actions de ce type, ça essaimera. Le débat a le mérite d'être lancé. Je crois que maintenant, c'est plus tabou de parler de tous ces éléments. Ça ira peut-être pas aussi vite qu'on le souhaite. Mais encore une fois, oui, je crois que je suis optimiste, mais quand c'est aux individus, après, quand on se retrouve dans des instances, il y a des postures dans différents domaines, et c'est là où ça clash, et c'est là où ça fonctionne mal.
Alors, c'est vrai qu'un commentaire fait parfois mieux qu'une question. Bruno voulait réagir aussi.
Mais très, 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 très brièvement, vraiment. Ce que je pense qui est fondamental, c'est de se dire effectivement qu'il faut être optimiste, mais en même temps, il ne faut pas traîner. Ça veut dire que le monde, il est là, et il faut prendre conscience. Et donc, quand je parlais de veille, voilà, je crois qu'on en est là. C'est quelles sont les informations qui nous permettent de nous dire aujourd'hui que notre monde est bien celui-là ? Et puis, c'est décider en fonction de ça, chacun à notre niveau. Et puis, en décidant chacun à notre niveau, on fera remonter. Mais voilà, d'abord prendre conscience. Si on prend conscience, je crois qu'on bougera.
Voilà. Une autre question ?
Allô ? Oui ? Ah, c'est bien. Bonjour, merci pour vos interventions. Pardon, excusez-moi. Je suis là, Vincent Tautet, je suis entrepreneur. Je travaille notamment sur les organisations apprenantes et les groupes solidaires et autonomes dans les écoles. C'était une question pour Monsieur Fiorina. Vous avez dit que dans les enjeux de demain, il y avait le pilotage à trois niveaux, celui des cohortes, celui des groupes, celui des individus. Celui des cohortes, bah, c'est l'éducation traditionnelle, j'imagine, par promotion, etc. L'individualisation, bah, c'est le sujet depuis deux jours. Il y a beaucoup d'innovations qui se font. Par contre, je ne vois pas grand-chose. Alors, je vous remercie d'avoir mis la focale sur le groupe. Mais qu'est-ce que, pour vous, le groupe, et qu'est-ce qu'il y a de plus innovant ? Quoi, est-ce que vous voyez des innovations ou des façons d'envisager le groupe autre que gérer un projet une fois de temps en temps voilà.
C'était la gestion au sens large du terme, y compris administratif, hein, dans des affectations de salles, de cours, de parcours, en sachant que, alors c'est, encore une fois, c'est peut-être une déformation par rapport à l'organisation de mon école, où on peut avoir des parcours personnalisés à l'intérieur de groupes spécifiques. Voilà, c'était plutôt par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Une autre question ? Oui ? Vous avez je vous donne le micro, je vous donne le mien.
Merci. Bonjour, merci. Sylvie Pierres d'Arocha, Institut Mines Télécom Atlantique. J'avais une interrogation, en fait, quand on parle effectivement d'individualisation, d'autonomisation. Donc on voit bien que tout ça, c'est louable, hein, on peut pas être contre. Par contre, je me demande en fait si nos institutions, en fait, à vouloir répondre justement un petit peu trop rapidement, ne mettraient pas en place des dispositifs hyper prescrits, hyper contrôlants, qui iraient à l'encontre justement de cette volonté et justement d'émancipation. Réel, quoi, parce que là, j'ai l'impression que tous ces nouveaux métiers qui viennent là pour contrôler les parcours, revérifier justement ces acquis avec des dispositifs pour vraiment certifier qu'à la fin, on a vraiment... on a individualisé, ok, mais à la fin, on voudrait vraiment vérifier quand même que c'est quand même quelqu'un qui vaut la peine. Je suis pas vraiment sûre, en fait, qu'on aille vers des dispositifs si émancipateurs que ça, en fait.
Bon, je me permets de répondre avec l'accord de mes collègues. Alors, comment me dire ? Je crois que c'était en 2009. Il y a eu une conférence de consensus sur la formation individualisée. Cette conférence, ça fait l'objet d'un ouvrage qui s'appelle la conférence du collectif de Gilly Lécitot. Nous étions, je crois, en huis clos, nous étions une dizaine enfermés, tous spécialistes de l'individualisation. Et donc, toutes ces questions-là ont été mises en tension entre nous. L'objectif était que nous sortions au bout de deux jours avec une définition de l'individualisation qui soit consensuelle, mais aussi en même suffisamment étayée au plan théorique et transmissible à des praticiens, ce qui est un exercice qui est quand même assez compliqué. Et il a été clairement annoncé, écrit, co-signé par nous tous, que l'objectif majeur de l'individualisation de la formation, c'est l'autonomisation des apprenants. Donc ça revient à la question dont je vous parlais de la visée. Ensuite, une autre dimension qu'on met souvent de côté, à part les quatre niveaux d'individualisation qui, je pense, sont quand même assez intégrés dans les champs de pratique, c'est la dimension sociale de l'individualisation. L'individualisation, ce n'est pas une formation pour un individu. Là, c'est du haute couture, c'est du Pierre Cardin. On ne sait pas faire, ça coûte trop cher. Hein. Donc, l'individualisation, c'est non plus du prêt-à-porter, hein, de la standardisation. Sauf que, donc, il y a une dimension obligatoirement collective dans l'individualisation avec un processus de socialisation. Donc, en termes d'ingénierie pédagogique, vous pouvez mettre du groupe dans un processus d'individualisation. Hein. Ce n'est pas grave, au contraire, justement, ça y participe. Mais bon, je ne vais pas rester à ce niveau-là, techno-pédagogique, mais la difficulté qu'il y a, moi, je répète depuis 15 ans, que mes collègues chercheurs dans mon domaine, dont certains sont présents ici, disent, mais comment individualiser une formation de masse ? C'est bien cela. Lorsqu'on est en faire de la formation continue dans une entreprise avec peu de salariés et ainsi de suite, on peut demander à un formateur intervenant interne ou externe, donc souvent externe, de mettre en place une individualisation. C'est possible, mais quand on a affaire à des millions de personnes. Hein, donc, effectivement, on se retrouve dans un espèce d'entre-deux, dans un continuum qui fait que je ne peux pas individualiser dans les règles de l'art parce que économiquement, ce n'est pas viable, parce qu'il faudrait énormément de ressources humaines pour le faire. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, des médiations, mais je ne peux pas non plus me contenter de la standardisation totale. Et donc, l'ingénierie de l'individualisation de la formation, j'enlève l'aspect numérique qui peut être intégré dans les situations d'apprentissage, est une ingénierie extrêmement complexe. Extrêmement complexe, où tout ce que dit la personne là qui est intervenue situe bien les enjeux, où je mets le curseur. Où je mets le curseur. Hein. En tout cas, il est clair que si l'autonomie est un prérequis pour réussir, dans ce cas, je dirais que vous pouvez individualiser à tout va. De toute façon, le système y réussira à ceux qui sont déjà autodirigés. Et donc là, du coup, on remet en scène tous les vieux slogans, mais qui sont plus que vieux et récurrents, mais qui sont extrêmement d'actualité, de l'égalité des chances, de l'accessibilité à la formation et de la réussite pour tous, sachant que, de mon point de vue, la réussite n'est pas équivalent à la performance. Déjà, réussir sa formation et trouver un métier qui correspond à ses propres aspirations, c'est déjà pas mal.
Bon. Jean-François, Bruno. Ça va ? Alors, d'autres questions ? Je pense qu'on a certainement le temps pour une question encore. Ah, ben, ah, mais ça va. Je vous donnerai après, alors.
Oui, ouais, je m'entends. Bonjour Daniela Rodriguez du CNAM. En fait, merci pour vos interventions. Il s'agit vraiment d'une mise en perspective de l'innovation pédagogique. Et en ce sens, j'avais une question pour Madame Gézégou. Ne craignez-vous pas que le discours sur l'innovation pédagogique n'est-il pas à cacher la réflexion sur les finalités de l'éducation. C'est gagné.
Vous avez 5 heures.
C'est bien, c'est bien. Alors, les deux mots-clés, c'est innovation et le premier mot-clé, c'est quoi ? Finalité, ah oui, dont on a parlé. Non. Non, moi je pense que c'est pas compatible. Nous sommes tous des bricoleurs innovants dans nos institutions. Hein ? Alors qu'est-ce que ça veut dire l'innovation ? Je suis spécialiste à côté de moi, donc je vais faire attention à ce que je dis, mais l'innovation, c'est à la fois créer du nouveau, créer une dynamique, créer quelque chose qui n'existe pas. Et je pense qu'au contraire, innover avec une visée, innover n'est pas une fin en soi. C'est innover pour quelque chose. L'innovation est un processus, à la fois un processus et un produit. Donc c'est innover pour faire quelque chose. Et donc, ça veut dire que ce qui est important, c'est quelle est la finalité que l'on donne à cette innovation. Si la finalité de cette innovation, c'est l'accessibilité à l'emploi, sachant que nous, on n'est pas maître du marché de l'emploi, si c'est finalement de former des gens qui puissent s'émanciper, qui puissent être heureux dans la vie, qu'on parle aussi un peu de bonheur, hein, pas que de la souffrance, hein, que l'on puisse aussi se dire voilà, que la personne puisse développer son autonomie pour être, entre guillemets, adaptable à la société d'aujourd'hui. Sachant que, bon, moi, d'un point de vue personnel, je mets un peu de bémol là-dessus, mais la réalité, elle nous rattrape. Donc, si cette visée est là, oui, on peut innover, au contraire. Mais l'innovation, ce n'est pas une fin en soi. Bon, voilà.
Oui. Oui, je suis Jean-Luc Lambert, Université de Caen. Moi, je suis informaticien, et donc sur l'autonomisation des étudiants et la personnalisation des parcours, en fait, la question ne se pose pas parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que la plupart des connaissances sont sur Internet. Dès qu'on forme des étudiants, de toute façon, c'est obsolète. Donc il faut bien qu'on fasse avec, ça bouge tout le temps. En plus, la réponse qu'on essaye d'avoir à l'augmentation des connaissances nécessaires en informatique, qui est un fait incontestable, c'est d'augmenter le nombre de cours. Donc on se retrouve avec des masters où ils ont cours de 8h à 18h, ce qui devient une totale absurdité. Clairement, le système est à sa limite. Donc en fait, moi, la personnalisation, elle se fait en réalité à travers les projets. C'est-à-dire que les étudiants, au cours de leur projet, ont des expériences différentes. Et la grande question que je me pose et que j'essaye de faire dans mes enseignements, c'est comment les mettre en situation d'apprendre à apprendre, sachant que de toute façon la connaissance est disponible, que les entreprises s'attendent à avoir des collaborateurs qui apprendront tout au long de leur vie. Donc finalement, ce qu'ils savent à la sortie du diplôme, ce n'est pas ce qui est vraiment important. Ce qui est vraiment important, c'est qu'ils sachent apprendre. Donc il leur faut des bases. Ça, clairement, on ne fait pas de la programmation sans avoir des bases. Il y a des choses qui restent dans le domaine universitaire. Mais il y a énormément d'enseignements qui finalement ne sont pas très utiles parce que au rythme de 8 heures par jour en continu de cours magistral, ils ne retiennent rien. Il faut être réaliste.
Je vais juste dire un tout petit mot. En fait, je pense que vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas les contenus qui sont principaux, mais le développement de compétences. Et donc, comment on travaille au travers de nos contenus spécifiques un développement de compétences qui va permettre que quand les contenus seront devenus obsolètes et sachant qu'ils existent par ailleurs, on sera capable d'en prendre connaissance, de les intégrer à ce qu'on a appris auparavant et de proposer à ces étudiants des démarches qui vont pouvoir réinvestir dans le futur et leur permettre d'être toujours le plus à jour possible.
Oui, en fait, j'avais une question. Je ne sais pas si le micro est branché là. Non, c'est pas grave. Si, en fait, j'avais une question, mais c'est pas du tout provocateur. Mais quand vous avez parlé, Monsieur Delièvre, des machines, en disant finalement, ce qui nous reste en enseignement, c'est le côté, c'est s'adapter, être l'empathie, etc. Mais est-ce que ce sera vrai dans 10 ans? Parce que quand on voit la vitesse de la robotique, alors pour l'aspect anthropomorphe des robots, ça, il n'y a aucun souci. Ce sera une question qui sera résolue et qui est en train d'être résolue. Je pensais simplement au JPES l'an dernier, par exemple. C'était Olivier Diens, je crois, qui avait montré comment un ordinateur était capable déjà de s'adapter complètement à l'intonation de la voix. C'était pas l'intonation de la voix, je crois que c'était aux modifications de l'aspect du visage et détecter que quelqu'un était triste, hein, et donc adapter sa réponse en fonction de l'état qu'il ressentait. Donc cette question de faire preuve d'empathie, je ne dis pas être empathique pour une machine, mais faire preuve d'empathie virtuelle, je pense que la machine va y arriver. Je ne connais rien dans le domaine, donc vous pouvez me dire que je raconte absolument n'importe quoi, mais je pense que finalement la machine, elle sera capable de faire preuve d'empathie, de s'adapter complètement au problème. Alors je ne suis pas en train de dire que la massification, il suffira de mettre des ordinateurs avec un aspect humain, anthropomorphe, mais finalement, on peut se poser la question. Ce qui paraît impossible aujourd'hui. Il y a une série qui s'appelait Real Humans il y a quelques années. Voilà, le nom vient de me revenir. Certains l'ont vu et qui montrait vraiment des robots complètement humanoïdes. Mais j'ai l'impression qu'on va y arriver, que ma génération va le connaître.
Mais en fait, oui, on va arriver à quelque. D'abord, pour ce que j'en connais aussi, je dirais en termes de développement et de la robotique et de l'intelligence artificielle, on n'en est qu'à apparemment à l'étape 2 par rapport à 4 qui sont envisagées. Enfin bref, donc, mais on n'en est pas encore très loin par rapport à l'ensemble des possibilités, mais qui restent du potentiel. Alors à côté de ça, enfin, je crois que ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, bien sûr qu'à un endroit donné, les machines vont nous surpasser. Elles le font déjà. Aujourd'hui, le cours de la bourse, enfin, les traders, ils sont... Enfin, c'est pas eux qui décident, hein, c'est pas un être humain qui décide, hein, c'est un ordinateur qui décide, et eux, ils poussent sur un bouton pour dire j'achète, ou enfin, même pas. Donc, il y a des endroits où on ne va plus décider. Mais justement, où va-t-on décider? Et donc, c'est là qu'il faut mettre toutes les forces. Et moi, je crois que, pour reprendre l'exemple de l'empathie, par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vu des reportages il n'y a pas longtemps en France sur l'accompagnement dans les maisons de repos, et où il y a un manque de personnel flagrant. Alors, si on peut mettre des robots près des personnes âgées, qui vont être capables de faire un minimum de choses pour les aider, après, les êtres humains seront là pour justement délivrer toute l'empathie nécessaire et délivrer de tout ce travail qui peut-être va être moins pris en charge ou devra être pris en charge par des humains. Et donc, moi, je crois très fort justement au fait qu'on va devoir développer tout ce que l'être humain fait beaucoup mieux que la machine encore aujourd'hui. Et je ne crois pas que demain, elle en arrivera à ce stade-là, mais qui sait?
Je ne sais pas, c'était une question.
Alors, la question reste ouverte, on se donne rendez-vous dans 30 ans ou dans 10 ans. Et puis je voudrais remercier les trois intervenants, je voudrais remercier la salle pour son intérêt, pour ses interventions. Et puis on va passer à la prochaine étape.
Voilà, et donc la prochaine étape, merci. Merci à vous tous.